Journal des élections, un espace de diffusion d'informations liées au processus électoral en RDC. Agenda électoral, enrôlement des électeurs, rétrospective de la semaine et plus encore. Suivez ce magazine chaque vendredi dès 15h30 à 16h sur Radio Capi.
Bien, comment encadrer un enfant qui souffre d'autisme? Vous savez, en RDC, il y a de nombreux enfants qui souffrent de cette maladie. Et ces enfants présentent dès l'enfance des troubles de communication et des comportements. Ils sont repliés sur eux-mêmes et ne manifestent aucun intérêt sur tout ce qui se passe autour d'eux. De nombreux parents attribuent cela à la sorcellerie ou au mauvais sort. Comment bien encadrer un enfant qui souffre d'autisme? Eh bien, nous en parlons aujourd'hui dans cette émission de La Vie au quotidien. Des questions, préoccupations ou des témoignages, composez les 099-706-63-94. Nous avons en ligne M. Sacrifice Anakambi, chef des sections handicap mental au village Bondeko. M. Sacrifice, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La première question de savoir, c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par autisme?
L'autisme fait partie des pathologies qu'on rencontre chez certaines personnes et qui se range parmi les troubles dits envahissants du développement. Donc, ces troubles, n'est-ce pas, affectent l'individu à tel point que, comme vous l'avez si bien dit là-bas, la communication, l'interaction sociale et certains gestes stéréotypés, n'est-ce pas, s'installent chez la personne présentant ce trouble-là. Et donc voilà, c'est un peu cela, ce qu'on peut dire d'une manière un peu plus générale de l'autisme.
Et qu'est-ce qui est à la base de l'autisme? Quelles sont les causes de ces troubles?
Eh bien, les causes, dont les données épidémiologiques telles qu'on le dit, n'est-ce pas, arguent beaucoup plus, n'est-ce pas, en faveur de la nature multiple des facteurs étiologiques du trouble de développement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, n'est-ce pas, qui entrent en ligne de compte pour que l'on puisse diagnostiquer l'autisme. Mais l'implication génétique, n'est-ce pas, est à considérer vraiment dans le cas de l'autisme. Lorsque l'on veut bien faire l'historisme, la genèse de l'autisme, oui. Et donc on s'accroche beaucoup plus sur le facteur génétique. Mais également, il y a les facteurs psychologiques parentaux, en particulier maternel, et les modalités, n'est-ce pas, d'interaction précoce, qui n'explique, n'est-ce pas, aucune façon assez claire, n'est-ce pas, la présence de l'autisme.
Et donc, vous avez dit, c'est beaucoup plus lié aux facteurs génétiques.
Oui, facteurs génétiques.
Voilà. Et comment se manifeste l'autisme, monsieur Sacrifice?
Eh bien, l'autisme se manifeste par... on parle beaucoup plus, n'est-ce pas, de ce qu'on on dit là-bas, la triade, n'est-ce pas, c'est-à-dire, il y a, chez le sujet ayant l'autisme, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle l'altération de la communication. Donc la communication et les langages, n'est-ce pas, commencent à poser un peu quoi certains problèmes, de manière à ce que, lorsqu'on parle à la personne, n'est-ce pas, elle ne réagit pas, elle est beaucoup plus repliée sur soi. Parfois, on a l'impression que non, la personne n'a pas d'audition. Et pourtant, il n'en est pas question. Elle en a, mais elle est renfermée dans son monde. Donc, il y a ce problème-là de communication qui se manifeste chez le sujet ayant l'autisme. Mais également, l'on trouve, n'est-ce pas, les troubles des interactions sociales. Et donc, vous ne pouvez pas fixer votre champ visuel avec celui de la personne ayant l'autisme, parce que il papillonne tout le temps comme ça. Et même quand bien même vous solliciterez à ce que vous puissiez échanger avec lui, et donc il y a ce problème-là d'interaction sociale. Alors, le repli sur soi ferait que non, dans cette triade autistique, et donc, la personne, n'est-ce pas, se replie sur soi et que le contact puisse faire défaut pour qu'il y ait une interaction entre les personnes. Voilà. Mais, enfin, il y a le comportement stéréotypé. Ce sont des gestes répétitifs, n'est-ce pas, que présentent les personnes touchées par l'autisme.
Quel type de geste?
Ça peut être des cris, ou bien des gestes de main, ou bien de quel autre geste, n'est-ce pas, qu'il le présente assez souvent lorsqu'il est en contact avec des personnes.
Voilà. Certains parents attribuent cela à la sorcellerie ou au mauvais sort. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela, monsieur Sacrifice?
Monsieur le journaliste, il n'y a pas de la sorcellerie là-dessus. Moi, j'ai toujours dit que ce sont des concours de circonstances, n'est-ce pas, qui arrivent dans la vie. Parce que, en fait, les personnes autistes dont il est question ici dans notre émission, elles n'ont pas commis un péché quelconque chez qui que ce soit pour hériter ce sort-là. Et donc, c'est quelque chose qui leur est arrivé sans même qu'il ait, n'est-ce pas, souscrit à ce qui leur est arrivé. Et donc, ce n'est pas question de la sorcellerie, c'est quelque chose qui arrive, qui arrive dans la vie. C'est comme on peut bien dire que les jumeaux, ce n'est pas le fait de la sorcellerie, c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Et donc, il faut aussi pouvoir accepter l'autisme en tant que tel. Quand c'est arrivé, c'est arrivé. Et donc, on est désarmé, n'est-ce pas, pour que l'on puisse un peu éviter ces cas-là qui nous viennent dans la vie.
Voilà. On va accueillir deux auditeurs qui nous appellent. Marcel nous appelle des Kananga, Nassor Moussa et Takindou. Marcel, on commence avec vous. Bonjour.
Marcel Moussa, parti des Kananga. Je voudrais poser un peu une question à l'invité. Parce qu'il y a l'enfant, ma grande sœur, moi, jusqu'à 10 ans, il parlait très, très, très bien. Maintenant, il est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital Saint, à Tshikaji. Il a fait au moins une année et demie. L'excès des médicaments qu'on donna à l'enfant là, après il était rétabli, mais après il ne parlait pas. Maintenant, quand pour lui parler, d'ailleurs vous allez insister mot par mot. Bon, je voulais poser un peu une question à l'invité. Est-ce que l'excès des médicaments là peut aussi donner aussi des conséquences au sujet du jour?
Bien, merci. Nassor Moussa, vous êtes à Kindou, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité et à tous les auditeurs et auditrices de la radio Capu.
Quelle est votre préoccupation?
Moi, j'ai trois préoccupations. La première préoccupation, je voulais savoir que l'invité puisse m'expliquer si c'est normal de garder cet enfant qui a vraiment de telles déficiences à la maison. Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, est-ce que cette, je peux appeler ça comme une maladie, est-ce que c'est transmissible vis-à-vis, ça peut être contaminé vis-à-vis des autres qui n'ont pas vraiment cette maladie? C'est au moins ça mes deux préoccupations par rapport à la thématique.
Merci, Monsieur Sacrifice.
Monsieur le journaliste, je suis à vous.
Vous avez certainement suivi les deux questions.
Nassor, oui, j'ai suivi l'intervention des auditeurs, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à leurs préoccupations?
À celui qui est à Kananga, je pense bien, qui dit que non, il avait un neveu, je pense bien, qui était malade et
qui a
suivi un peu un traitement.
Voilà.
Et par la suite, on a constaté que non.
L'enfant ne parle
plus. L'enfant a perdu certains acquis tels que la parole et autres.
Oui.
Et maintenant, son audition semble un peu poser problème. Il faut parler un peu quoi fort pour qu'il l'entende. Et puis, il pose la question de savoir est-ce que les médicaments peuvent être à l'origine, n'est-ce pas,
de l'autisme.
De ce qu'il trouve chez l'enfant actuellement. Je dis oui. Alors, certains médicaments peuvent, n'est-ce pas, toucher le fonctionnement de l'audition. Et donc, je ne suis pas trop spécialiste dans ce domaine-là de la médecine, mais je sais que chez nous, ici au village Vendéco, la prise de médicaments tels que la quinine, les gentamicines et les aspirines, n'est-ce pas, à dose élevée, peuvent causer du tort, n'est-ce pas, à notre audition. Et donc, c'est aussi question de savoir, est-ce que l'enfant n'avait-il pas été souffrant d'une méningite? Ça, c'est ce que l'auditeur n'a pas dit. Mais ce qui est vrai, les médicaments peuvent être à l'origine du cas que l'enfant connaît actuellement. Et donc, la deuxième question qui nous vient du côté, oui, dans l'est de la République démocratique du Congo, à qui je pense bien.
Oui, mais avant de répondre à la question de Nassor, je voudrais savoir, le fait que l'enfant ait pris beaucoup de médicaments, il a perdu son langage, est-ce que cela nous amène à dire directement qu'il s'agit d'un cas d'autisme?
Non, pas du tout, hein, pas du tout. Il faudrait que l'on voie la triade que j'ai dit là-bas, l'altération, la communication. Est-ce que l'interaction sociale pose problème? Est-ce que l'enfant pose de gestes stéréotypés? Si tel n'est pas le cas, et donc on ne peut pas dire conclure qu'il s'agit d'un cas d'autisme, mais c'est un cas tout autre qui n'a rien à voir avec l'autisme.
Bien, Nassor Dekindou dit, faut-il garder un tel enfant à la maison, un enfant qui souffre d'autisme?
Non, il ne faut pas le garder à la maison. Mais lorsque nous parlons de l'égalité de chance qui est prônée ici chez nous, il faut référer l'enfant dans une institution spécialisée pour sa prise en charge. Le garder à la maison, ce serait une manière d'entretenir son état, ce qui n'est pas du tout bien. Il faut qu'il soit au contact avec les spécialistes pour qu'il puisse améliorer son comportement. On trouve un peu, je dirais bien, sociable vis-à-vis de sa société. Mais il y a les médecins neurologues, si les structures spécialisées ne sont pas là. On peut contacter un médecin neurologue, un psychologue, un psychoclinicien, qui peut aussi quoi aider dans la prise en charge de l'enfant ayant l'autisme. Mais est-ce qu'il s'agit bien d'une pathologie qui peut être transmise à quelqu'un d'autre qui n'en a pas? Non, il n'est pas transmissible comme M. De Kindo le voit là-bas. Il n'y a pas question de contagion.
Voilà, il n'y a pas question des contagions. Nous parlons de l'autisme. Comment encadrer un enfant qui en souffre? J'imagine que vous recevez, au niveau du centre au village Bondeko, vous recevez beaucoup de cas d'autisme. Monsieur Sacrifice, comment vous faites pour encadrer ces types d'enfants?
Monsieur le journaliste, je dois vous dire très sincèrement que les cas d'autisme sont de plus en plus fréquents chez nous, hein, sont de plus en plus fréquents, mais à faible proportion par rapport à l'ensemble des élèves vivant avec handicap que nous avons au niveau du village Bondeko. À titre de rappel, je voudrais tout simplement qu'à cette année-ci, au niveau du village Bondeko, nous avons 2337 élèves vivant avec handicap. Un pourcentage assez élevé pour les élèves sourds et vient en deuxième position les handicapés mentaux. Et parmi les handicapés mentaux, nous avons aussi les autistes. Alors, le traitement, comment il se passe ici chez nous? Eh bien, il y a des prises en charge scolaires qui leur est destinée. Mais je voudrais bien souligner que on n'a pas un traitement curatif à proprement parler pour ce trouble-là de l'autisme. Mais il y a des stratégies éducatives qui aident, n'est-ce pas, à ce que l'individu puisse améliorer son comportement. Et les éléments de la triade, le langage, l'interaction sociale et la stéréotypie. Et donc, ce sont de quoi ces approches-là qui nous aident, appuyées par une approche, n'est-ce pas, comportementaliste que prennent les Américains. Et donc, là, il y a possibilité que la personne atteinte de l'autisme puisse améliorer sa façon, n'est-ce pas, de se comporter dans la société. C'est ce que nous faisons. Et Nous, là, nous nous accrochons sur trois piliers, hein, monsieur le journaliste.
Oui.
Et donc, nous avons l'autonomie personnelle de l'individu que nous tentons un peu de pouvoir améliorer. Il y a sa communication, la communication de l'individu qui va être aussi travaillée. Il y a la socialisation de l'individu. Il faudra un peu quoi s'appuyer là-dessus. Et enfin, l'occupation, que la personne soit occupée à faire quelque chose au lieu de rester sans rien faire et entretenir de plus en plus son état d'autisme. Voilà ce que nous faisons, monsieur le journaliste, dans la prise en charge des personnes ayant l'autisme.
Bien, on va accueillir deux autres auditeurs, Badila de Kananga, Wesley Luboya est aussi dans la même ville. Comment encadrer un enfant qui souffre d'autisme? Nous recevons comme invité Monsieur Sacrifice Anakambi, chef des sections handicap mental au village Bondeko. Badila de Kananga, bonjour.
C'est bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi, radio de la paix. En tout cas, vraiment, c'est une bonne thématique que vous venez d'élaborer par le fait que nous constatons vraiment dans notre ville de Kananga, il y a vraiment beaucoup d'enfants qui souffrent de cette maladie communément appelée l'autisme. Prenons par exemple de la commune de Langanza, où aujourd'hui, juste quand je vous parle ainsi, il y a vraiment des femmes là qui subissent un peu des injures très, très insupportables, vraiment. Par les familles de leur mari qui disent que non, peut-être si une femme a un enfant qui souffre un peu de l'autisme, vraiment, cette femme-là est taquinée par le fait que non, la femme est sorcière, elle veut assez que vraiment l'enfant puisse mourir. Alors, je voudrais vraiment demander à l'invité, quels sont les conseils que l'invité peut donner vraiment à des femmes qui subissent un peu de telles paroles. Merci beaucoup pour le droit de la parole. Merci.
Bien, merci Badila. Wesley Luboya, vous êtes aussi à Kananga, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à l'invité Sacrifice et bonjour à tous mes prédécesseurs comme auditeurs qui sont déjà intervenus sur l'antenne de la radio de la paix. D'entrée de jeu, je m'en vais saluer notre invité parce que tout ce qu'il a donné comme argument, c'est des pistes de solutions pour tous ces enfants souffrant de cette maladie ou des troubles d'autisme. Je dis, le problème que nous avons au Kassa Central, c'est que nous avons beaucoup d'enfants qui sont victimes de cette maladie ou de ces troubles.
En Gaza. Mais,
non, pas seulement en Gaza. Moi, je parle de la ville en général et pourquoi pas la province du Kassa Central.
Oui.
Et là, je m'en vais déjà déceler des endroits spécifiques qui sont peut-être en train d'encadrer ces enfants. Là, je vais parler d'un Mpandilou au niveau de Notre-Dame et aussi un Mpandilou 2 au niveau de Buenamuntu. Alors, ces enfants-là ont le problème d'abord d'entendement, un problème de psychologie. Ils entendent peut-être qu'ils ne savent pas parler, ils ne savent pas faire trop de mouvements, mais ils sont encadrés par les experts en la matière. Alors, la question que je vais poser à l'invité est celle-ci. Est-ce que les enfants ayant souffert de leur enfance de la méningite peuvent être dans les troubles d'autisme? Point, la première question. Et la deuxième question, si et seulement si ces troubles s'intensifient sur le territoire national comme, et je parle des troubles bien sûr, ils sont en train de s'intensifier parce que les taux d'autisme chez les enfants et peut être évalué à 50 ou 60% pour les Kassa Central. Est-ce que notre gouvernement a des stratégies pour un meilleur encadrement de ces enfants qui peut-être aujourd'hui sont mal vus par leurs parents ou peut-être par leurs membres proches qui les traitent peut-être des enfants mystiques, des enfants peut-être qui ne sont pas normaux? Est-ce qu'un gouvernement comme le nôtre ici congolais a des stratégies qu'il peut aussi mettre en place pour que tous ces enfants naissant avec des troubles d'autisme puissent avoir un encadrement qui fera de demain des gens quand même importants pour nos sociétés? Voilà, Luboya Wesley depuis la ville de Kananga. Merci Jody.
Merci Wesley. Clément Daye de Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité de la radio Kapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire Clément?
Je voudrais juste demander à notre invité par rapport à notre sujet qui est en train d'être traité. Est-ce qu'un enfant qui souffre de cette maladie appelée autisme, est-ce qu'il peut être séparé des autres? Alors la deuxième des questions que je voudrais demander à notre invité, il est vrai que j'ai palpé un autre cas, il y a un frère qui a donné naissance à une fillette qui avait un trouble pareil. Mais selon le dire de ce frère-là, il disait que non, au moment que sa maman était vraiment enceinte de cette fillette-là, elle avait tombé malade. Elle était tombée malade plutôt. À un moment-là, elle était soumise à certaines cures de quinine ainsi que certains produits qui pouvaient le traiter. Mais à un moment-là, quand l'enfant est né, on a trouvé que non, l'enfant avait vraiment des troubles. À un moment-là, le bras avait des problèmes, mais sa façon de raisonner, c'était des problèmes. Alors, par après, il est parti, il a divorcé avec sa femme. Alors, il est parti encore se remarier à une autre femme. À un moment-là, après 3-4 naissances comme ça, il a eu encore un jeune garçon qui est né toujours avec ce même trouble-là. Mais alors, on a demandé à notre frère-là comment la première fillette, tu avais dit que non, voilà, sa maman était soumise à des cures, ainsi de suite. Mais comment il est arrivé à ce que ce garçon puisse encore naître avec le même trouble que la fille qui était de la première femme? Alors, je voudrais juste demander à notre invité, cela était bien quoi? C'est-à-dire cette maladie-là peut être héréditaire ou des fois ce sont les histoires qui arrivent par hasard? Alors, il a fallu qu'il puisse vraiment m'éclaircir sur ça. Alors, merci et puis bonne journée chez vous aujourd'hui.
Merci Clément. Kalala Serge, vous nous appelez aussi des Kananga. Nous parlons de l'encadrement des enfants souffrant d'autisme. Bonjour Kalala.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Je voudrais un peu demander à notre invité par rapport à l'autisme. Il a parlé de l'encadrement des enfants qui souffrent de cette maladie. Et je voudrais un peu lui poser la question de savoir, est-ce qu'il y a moyen de diagnostiquer ou de découvrir les signes cliniques de cette maladie pendant que l'enfant est encore... a encore l'âge trop bas? Est-ce possible de découvrir cette maladie? Et s'il y a possibilité de le découvrir, quels sont les examens appropriés afin de prévenir certaines complications à l'âge adulte? Merci.
Bien. Kabemba Evariste nous appelle de Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
On vous écoute, Kabemba.
Ok, j'ai trois petites questions.
Lesquelles?
Poser à l'invité. L'autisme se caractérise essentiellement par quoi?
Oui, allez-y, deuxième question.
C'est la première question. Et pourquoi l'autisme affecte le fonctionnement du cerveau?
Ok, troisième question.
La troisième question, la problématique actuelle de l'autisme se situe à combien de niveaux?
À combien de niveaux, c'est-à-dire?
Pardon?
Oui, la troisième question, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement?
La troisième question, je voulais savoir la problématique actuelle de l'autisme. C'est à combien de niveaux?
Ou quelle est l'ampleur du problème aujourd'hui à travers le pays? Merci d'avoir appelé à Kabemba Evariste de Mbujimayi. Monsieur Sacrifice, vous avez suivi toutes ces préoccupations des auditeurs. Voilà, revenons d'abord à celle de Badila de Kananga qui dit là-bas à Kananga, surtout dans la commune de Nganza, il y a beaucoup de cas d'autisme et on injurie les mamans qui ont des enfants comme ça, on les traite des sorcières et ils demandent quels conseils vous pouvez donner à ces gens qui traitent ces mamans de cette façon.
Monsieur le journaliste, bien merci. Merci aussi quoi à tous les auditeurs pour l'intérêt qu'ils manifestent à cette émission et au thème que nous débattons ce jour. Le conseil à donner est tout simple. Hein. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'autre, la personne ayant l'autisme, hein, telle qu'elle est. Accepter aussi les membres de sa famille, que ça soit parents, frères, sœurs, tout ce que vous voulez, le respecter en tant que tel. Parce que le conseil que je donnerai, nous sommes tous humains, créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a bénéficié d'une création spéciale pour se démarquer des autres. Et donc, nous sommes tous égaux. Si j'ai l'autisme, je dis bien, c'est un concours de circonstances, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas la personne qui a accepté d'être née autiste ou encore
elle a été cherchée quelque part dans un magasin, mais dans une boutique ou bien au marché, l'autisme pour que il puisse un peu quoi s'en approprier. Donc telle n'est pas la question. Il faut tout simplement respecter la personne. Voici la, c'est cela le conseil que je donne, n'est-ce pas, à tous. Mais ne blessons pas encore les personnes qui souffrent déjà par le fait qu'elles ont dans leur famille des personnes qui posent problème. C'est vraiment trop le charger. Évitons de le faire. Merci.
Voilà, Badi Wesley de Kananga veut savoir si la méningite, l'autisme a un lien avec la méningite. Quelqu'un qui a souffert de...
Je ne suis pas très bien placé pour parler un peu de lien entre méningite et l'autisme. Mais ce que je peux dire est que la méningite est une des causes à fréquence élevée du handicap mental en République démocratique du Congo. Beaucoup plus ici, à Kinshasa. Les statistiques des villages Mondeko en disent quelque chose. Et certaines manifestations que la personne atteinte de méningite présente par la suite sont proches de manifestations qu'on rencontre chez la personne ayant l'autisme. Et donc, il peut y avoir possibilité de confusion de certains comportements qui peut bien amener notre auditeur à dire que la méningite était à l'origine de l'autisme. Et donc, la méningite est beaucoup plus cause du tort à l'individu qui en a souffert, mais avec un pourcentage élevé d'altération intellectuelle qui conduit, je dis bien, au handicap mental.
Voilà, Clément de Kananga veut savoir s'il faut séparer des autres enfants un enfant dans la famille qui manifeste les signes, ce trouble de l'autisme.
Monsieur le journaliste, à Clément, je dis ceci comme à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment-ci. Il n'est pas question de séparer l'enfant ayant l'autisme avec ses frères et ses sœurs. Laissez-les ensemble, puisque nous avons dit que parmi la triade là-bas, il y a les troubles d'interaction sociale. Mais s'il y a troubles d'interaction sociale, la manière la plus sûre de pouvoir la résorber, ce serait quoi? C'est de mettre la personne autiste en contact avec les autres pour que petit à petit, qu'elle puisse résorber les troubles d'interaction sociale. Pas question de séparer, mais encourager plus que la personne soit aux côtés d'autres personnes qui ne présentent pas de troubles. C'est aussi une thérapie.
Voilà, et Kalala veut savoir quels sont les signes cliniques à l'âge, lorsque l'enfant est encore tout petit, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent déjà renseigner par rapport à ces troubles?
Eh bien, je n'ai pas... tellement une bonne recette à lui donner là-dessus, mais ce que je peux lui dire, c'est ceci, c'est que l'enfant qui est tout jeune, hein, tout petit, il y a des gestes qu'il arrive à comprendre très bien. C'est le regard, quand on lui parle, il le regarde. Il peut suivre, n'est-ce pas, le mouvement de doigts avec ses yeux. Ça, ce sont des signes qui peuvent nous indiquer que lorsqu'un enfant ne le fait pas, ça peut un peu nous tiquer, mais faudra-t-il encore entendre un petit moment pour que l'on s'en rende compte par la suite. Donc, ce sont ces signes-là, le suivi visuel de l'enfant lorsque devant lui, la maman ou bien le papa promène son doigt, l'enfant doit le suivre parce que c'est quand même attirant, mais aussi les gestes que les enfants posent d'une manière naturelle. Vous tendez à l'enfant le bras, mais l'enfant qui ne réagit pas, il est là, c'est comme s'il est fêté. Et donc ce sont des éléments pareils qui peuvent, n'est-ce pas, nous orienter pour dire que faisons attention. Pourquoi tel ou tel autre comportement chez l'enfant lorsque on le sollicite? Bon, il pleure, la maman vient lui tendre la main, mais généralement l'enfant va répondre par manifester lui aussi quoi ce geste-là
de pouvoir tendre aussi ses mains pour que la maman lui prenne par les bras. Mais quand ça ne se fait pas assez souvent, et donc il y a des signes, et dans ce cas-là, notre auditeur peut bien, n'est-ce pas, aller voir un médecin, soit généraliste soit-il, qui pourrait l'orienter chez un spécialiste.
Bien, nous parlons de l'encadrement des enfants souffrant d'autisme. Avant de répondre aux autres questions, on va accueillir Kabamba de Chikapa. Bonjour.
Chikapa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, veuillez fermer votre radio à Kabamba. Vous allez suivre à partir du téléphone pour éviter ce bruit à l'antenne. C'est fait. Veuillez fermer la radio Kabamba ou éloignez-vous de votre récepteur.
Je suis à une distance de mon poste. Alors, je dis que je salue d'abord tous les journalistes de la radio Okapi et vous les présentateurs. Et je fais aussi courage à notre invité. Je voulais lui demander qu'il nous donne une définition classique de la maladie qu'il est en train de prêcher, en même temps qu'il nous donne un peu quelques signes populaires et c'est dans quel âge des enfants qui peuvent être atteints de la maladie qu'il est en train de diffuser.
Bien, merci. La définition de l'autisme, les signes et à quel âge les enfants peuvent souffrir de ce trouble. Malonga de Bandundouville, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à notre expert là qui explique vraiment efficacement notre sujet.
On vous écoute, Malonga.
Ok, merci beaucoup. Je vois de tout ce que mes prédécesseurs viennent déjà de commenter et surtout l'invité. Je suis déjà convaincu de tout ce que j'avais. Mais je veux savoir seulement si l'invité peut aussi nous rassurer qu'est-ce que c'est un cas microbien ou bien c'est purement génétique. Et puis, je demande aussi, est-ce qu'il y a une région endémique concernant cette maladie, là où on peut trouver assez de ce cas? Et puis encore, est-ce qu'il y a des recherches scientifiques et approfondies concernant ce cas-là pour approfondir vraiment et connaître la cause et pourquoi pas la finir pour une guérison totale? En fait, que les parents, responsables de ces enfants, soient vraiment apaisés.
Bien, merci. Monsieur Sacrifice.
Ah, merci le journaliste. Je suis à vous.
Vous avez la parole.
Je voudrais bien qu'on me reprenne un peu quoi certaines questions. Donc, s'il vous plaît, je vais toucher ça et là comme ça les questions. Il y a un auditeur qui voulait savoir...
Quel examen, par exemple, quel examen à soumettre à l'enfant qui présente des signes d'autisme?
Et donc, là, c'est ce que j'ai dit tantôt là. Je disais que le diagnostic de l'autisme, du moins, l'autisme n'avait pas un traitement curatif de nos jours qui peut prétendre résoudre ce problème-là. Et comprenez aussi par là que les difficultés que les scientifiques ont de pouvoir détecter l'autisme ou de le dépister d'une manière assez précoce. J'ai tenté d'expliquer la démarche que nous prenons, c'est celle de voir ça, certains gestes de la vie quotidienne de l'enfant, et si ces gestes-là sont exécutés comme il se doit ou non. Alors, ce sera ce que je peux bien dire sur cette question-là. Présentement, là, c'est ce que je peux bien dire, qui est à la portée un peu de ma connaissance.
Voilà, Malonga revient sur il veut connaître quelles sont c'est plutôt Kabemba, le mouvement, les caractéristiques de l'autisme. Est-ce qu'il veut savoir aussi si cela affecte réellement le cerveau?
Eh bien, il peut bien avoir un lien avec le cerveau, ça je dis. Je dis bien, il peut bien avoir le lien dans une certaine mesure, parce que les cas que nous avons reçus au niveau du village Mondeko, on a des cas d'autisme, qui présentent aussi quoi les problèmes de l'altération mentale. de l'aliénation mentale, comme on le dit, c'est du retard mental. Donc, je peux dire, sous réserve, que cela peut aussi, dans une certaine mesure, affecter le cerveau. Alors, mais, comme on dit toujours, la répétition, la mère des sciences, permettez que je dise encore ceci. La question qui m'a été posée, c'est celle de savoir si on peut donner une définition classique de la pathologie. Je dis donc, la définition classique de l'autisme serait celle-ci. C'est un trouble mental qui présente une certaine sévérité et qui se traduit par l'isolement, le repli sur soi et l'absence de communication. C'est ce qui faisait la trilogie que je venais d'évoquer précédemment. Voilà ce que je peux dire sur cette question-là. Je n'ai pas encore en tête d'autres questions, si vous voulez bien me le rappeler, monsieur le journaliste.
Oui, Kabamba de Tshikapa, il revient sur la définition de l'autisme, les signes. Il veut connaître aussi quels sont les signes de l'autisme. Et à quel âge ce trouble apparaît chez un enfant?
Merci beaucoup. Eh bien, on parle de l'autisme infantile. Allez-y comprendre, c'est quand l'individu est encore tout petit. La définition classique de l'autisme serait celle-ci pour notre auditeur. L'autisme, c'est le trouble mental sévère qui se traduit par un isolement, un repli sur soi et une absence de communication. Et donc, ce trouble-là, les troubles envahissants, c'est compté parmi les troubles envahissants du développement, peut bien se manifester chez un individu dès le jeune âge. Je dis bien dès le jeune âge. Mais quand il est encore nourrisson, c'est vraiment difficile de pouvoir diagnostiquer l'autisme. Mais il faudrait encore attendre un certain âge. C'est-à-dire que le fonctionnement des personnes atteintes de l'autisme est tel que sujet à une évolution, de manifestation, si vous voulez bien, de ce qui trouble leur comportement. Et donc, l'autisme peut bien se résorber, peut bien s'améliorer, le comportement de l'individu peut bien s'améliorer en fonction bien entendu de la gravité de son autisme, de son âge et de son développement ainsi que des expériences que l'individu a dans la vie. C'est alors que j'avais dit, il n'est pas question d'isoler la personne atteinte de l'autisme. Il faut plutôt favoriser son insertion ou bien sa présence parmi d'autres personnes qui n'ont pas l'autisme.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'après une bonne prise en charge, la personne qui souffre de l'autisme peut retrouver son langage?
Oui, dans une certaine mesure, oui, parce que je n'ai pas l'auteur en tête. Qui a écrit l'expérience d'une personne autiste qui, au fil des années, avait suivi un encadrement d'un spécialiste et qui a fini par recouvrir, si vous voulez bien, toutes ses facultés, parler. Et la personne a même écrit un document là-bas sur l'expérience de son autisme. Donc, il y a possibilité, avec la prise en charge, de pouvoir améliorer le comportement autistique, mais il y en a aussi d'autres qui ne peuvent pas s'améliorer compte tenu de la gravité de l'atteinte de l'autisme.
On va accueillir Constant de Brazzaville. Bonjour Constant. Constant, vous
bonjour,
nous appelez.
Bonjour monsieur l'invité.
On vous écoute.
Bonjour jeudi, bonjour monsieur l'invité.
Bonjour Constant, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Moi je viens de vous rejoindre maintenant. Je vais demander à l'invité comment cette maladie est provoquée par quoi Et comment est-ce qu'on peut prévenir cette maladie? Parce que je n'étais pas là au début de l'émission, c'est maintenant que je viens d'intervenir. Et l'invité va aussi m'aider à me répondre à mes deux questions ici. Qu'est-ce qui provoque et comment prévenir cette maladie? C'est une très bonne journée chez vous.
Voilà, qu'est-ce qui provoque l'autisme et comment prévenir cela, hein, Monsieur Sacrifice?
C'est une question aussi difficile pour moi de dire qu'est-ce qui est à l'origine, mais j'ai dit tantôt là-bas dedans, donc j'ai dit non. Certaines maladies génétiques sont à la base, n'est-ce pas, de certains syndromes qu'on rencontre chez certaines personnes dans la vie. Et donc, les problèmes de l'autisme, comme je l'avais dit précédemment, c'est lié, c'est un problème purement génétique. Hein, c'est le problème de génétique, que je sache moi au moment où je vous parle. Alors, la prévention, ce serait quoi? Donc, comme je ne sais pas la cause exacte, et donc j'ai aussi difficile à dire comment prévenir un peu l'autisme.
Mais pour les parents qui ont des cas d'autisme, des enfants qui souffrent de l'autisme, quel est le conseil que vous pouvez leur donner par rapport à une bonne prise en charge?
Par rapport à une bonne prise en charge, je vais dire leur ceci. Il faudrait que les trois éléments de la triade que j'ai cités, l'approche interpersonnelle, le langage et le geste stéréotypé puissent être résorbés. Et pour cela, il faut un degré d'amour vis-à-vis de la personne touchée par l'autisme. Et si possibilité il y a, voir des spécialistes. Les spécialistes dont il est question ici, je vois les médecins neurologues. On peut le voir, ils peuvent vous fournir des conseils pour voir comment aider l'enfant à améliorer ou encore à stabiliser les comportements non souhaités par les parents. Mais il y a aussi quoi des psychocliniciens, des psychocliniciens qui peuvent aussi aider, mais aussi les spécialistes. Les orthopédagogues, ils savent comment ils peuvent gérer ou bien encadrer les cas d'autisme. Mais au niveau de la famille, montrer déjà l'amour à la personne qui a de l'autisme et tenter un peu quoi de favoriser un peu quoi le contact social de manière à ce que la personne ne soit pas tout le temps isolée. Au point d'entretenir de plus belle son état d'autisme. Voilà ce que je peux dire à nos parents.
On va terminer avec Pierre de Kananga. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les okapistes de la RDC.
On vous écoute, Pierre.
Je dis merci pour le thème du jour, messieurs les journalistes, et à monsieur l'invité. Je regrette du fait qu'ici, à Kananga, et presque partout dans des milliers ruraux, bon, cette maladie de l'autisme est tellement éparpillée presque partout. Alors, pour ceux qui sont dans des milieux urbains, de pareilles maladies, bon, les maladifs, bon, ont des interventions ou trouvent des supports. Alors, je pose la question à l'invité. Est-ce que l'État congolais peut admettre à ce qu'il y ait des sensibilisations, je dis bien des sensibilisations dans des milieux ruraux, au village le plus loin de la province, et avoir des aides, avoir plutôt des soutiens à ceux qui déparent maladie, parce qu'au village, nous qui avons subi des guerres, nous qui avons subi des décès par-ci, par-là, nous avons tant de dégâts. Et en plus de cette maladie d'érotisme, il y en a de nombreuses maladies. Alors, est-ce qu'il y a des campagnes, il y a des sensibilisations dans des villages? Les campagnes, les sensibilisations sont seulement dans des villes, dans des territoires. Mais pourquoi cette sensibilisation? Pourquoi ce traitement? Pourquoi ces aides ne passent pas dans des milieux ruraux? Merci beaucoup et à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Bien, Monsieur Sacrifice, les sensibilisations dans les villages, qu'est-ce que vous pouvez dire à Pierre à ces sujets?
Et donc là, je lui donnerai raison parce que je l'ai dit comme ça, en tant que technicien en matière d'encadrement de personnes vivant avec handicap mental.
La sensibilisation n'est pas tellement bien faite pour que la population sache qu'est-ce qu'il faut faire pour tel ou tel autre cas. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais et aussi, c'est, si vous voulez bien, l'insuffisance de structures appropriées pour la prise en charge des cas que nous venons de, que nous traitons ici. Ça pose problème. Si les amis de Kananga qui sont beaucoup intervenus là-bas, on cite un peu quoi, les centres Bandilo, que je salue tous les amis qui travaillent de ce côté-là, parce que nous avons déjà travaillé en collaboration avec les centres Bandilo. Et donc, c'est à Kananga, mais à l'intérieur, il n'y en a pas. Et donc, il y a lieu que les ministères concernés par le problème de l'autisme, je peux citer bien le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, le ministère des Affaires sociales et tout ce que vous voulez là-bas, peuvent, n'est-ce pas, appeler autour d'eux les techniciens pour qu'ils en parlent et voient comment est-ce qu'on peut sensibiliser la population profonde de manière à ce que les problèmes de l'autisme, lorsqu'on le détecte, et donc on puisse le référer à qui des droits pour une meilleure prise en charge.
Bien, M. Sacrifice Anakambi, chef des sections handicap mental au village Bondeko, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, M. le journaliste.